Voilà, je vais vous demander de prendre place pour écouter notre frère Jean-Thomas de Borgard, que je remercie, de venir faire cet exercice difficile qu'est la synthèse. Voilà, je te laisse la parole, merci beaucoup Jean-Thomas d'être parmi nous. Jean-Thomas, entre autres qualités, ses qualités intellectuelles, je les tairai, vous les verrez vous-même, est un jeune prêtre, et donc il a la grâce du jeune prêtre. Donc vous pourrez bénéficier aussi de ses secours, ainsi que le frère Maxime, après les messes, quand vous voudrez, hein, bénéficier des grâces qui sont liées à nos jeunes prêtres.
Mon objectif dans cette synthèse de la journée, c'est de donner quelques lignes de force des interventions qui ont été de grande qualité, celles qui ont été données aujourd'hui, d'en souligner les articulations et peut-être de les éclairer ou de les reformuler en d'autres termes pour nous aider, pour vous aider à mieux les intégrer. C'est un exercice ingrat, d'abord parce que vous avez entendu ces interventions, donc ça peut faire doublon, et d'autre part parce que vous êtes fatigué. On va essayer de le rendre le plus attrayant possible, ou en tout cas le moins pénible possible. Et en bonne théologie, puisque au départ l'adjectif qui était accolé à synthèse était synthèse théologique, en bonne théologie, il faut toujours commencer par se retremper dans la parole de Dieu. C'était l'objet de l'exposé de Claire Pathier ce matin, qui nous a fait suivre le destin des pauvres du Seigneur, donc en hébreu « Ani », qui a donné aussi les « Anawim », en grec « Ptokos », etc., etc. Elle nous a fait suivre ce destin de ces pauvres du Seigneur à travers l'Écriture, en nous disant, et je crois que c'est une définition qui est suffisamment large et en même temps suffisamment précise pour nous, que le pauvre, c'est fondamentalement celui qui crie vers Dieu et à qui Dieu répond. Cette définition, elle est précieuse d'abord parce qu'elle est biblique, et puis parce que c'est une acception suffisamment large pour comprendre toutes les formes de pauvreté passées, présentes et à venir, que ce soit la souffrance, l'humiliation, la maladie, la marginalité, etc., etc., tout ce qu'on peut imaginer. Le pauvre, c'est fondamentalement celui qui crie vers Dieu et à qui Dieu répond. Le pauvre, nous disait-elle, c'est celui dont le seul secours est Dieu, ce qui est l'étymologie exacte et redoublée de Lazare de Béthanie. Lazare, c'est littéralement le pauvre à qui Dieu répond, et Béthanie, c'est celui qui habite dans la maison du pain. Donc Lazare de Béthanie, c'est le pauvre au carré, si vous voulez. Au titre des étymologies, je rajouterai que certains voient dans le terme « mammon », que Jésus emploie pour qualifier l'argent et les puissances d'argent dans l'Évangile, certains exégètes pensent que Mammon a une racine commune à celle qui a donné Amen, c'est-à-dire celle qui indique le fait de trouver son assurance et son fondement sur quelque chose ou quelqu'un. Et ça nous indique pourquoi Jésus oppose de manière aussi virulente Mammon et lui-même et Dieu. C'est que l'argent concurrence Dieu de manière directe en tant qu'il peut se substituer comme celui sur qui je fonde mon secours, celui sur qui je fonde ma vie, celui sur qui je fonde mon espérance. Claire Pathier nous a ensuite rappelé que Dieu a une prédilection pour les pauvres. Et dès lors, la pauvreté comme état subi devient une grâce, un état recherché de celui qui non seulement se sait dépendant de Dieu, ce qui n'est encore que du bon sens, mais qui veut se faire encore plus dépendant de Dieu, ce qui est le début de la sainteté. Elle a beaucoup insisté aussi sur le fait que la providence de Dieu, en l'occurrence sa justice, n'était pas de donner la même chose à chacun, on n'est pas dans l'égalitarisme, mais de donner à chacun selon ce qu'il est, personnellement, selon ses besoins. Et elle a rappelé entre autres l'épisode de la manne, qui est très révélateur, puisque chacun prend certains beaucoup, certains peu, mais qu'au total, chacun a exactement ce dont il avait besoin. Et il est frappant, elle a d'ailleurs utilisé le vocabulaire sans le noter, qu'on est appelé la manne, Jésus appelle la manne, comme l'Eucharistie d'ailleurs, le pain des anges. Et ça m'a fait penser qu'en bonne théologie thomiste, l'ange est unique dans son espèce. C'est-à-dire que vous, par exemple, madame, est de la même espèce que le monsieur à côté, parce que vous partagez la nature humaine, de la même espèce humaine. Mirza est de la même espèce que Rintintin, l'espèce canine. Eh bien, l'ange, chacun est unique dans son espèce. Il y a que chaque ange porte en lui-même sa propre espèce. On les range sous le nom d'ange, c'est un nom générique, mais chacun est sa propre espèce. Et le fait qu'on dise de l'Eucharistie et de la manne qu'elle est le pain des anges, bah c'est très beau parce que ça dit exactement ce que Claire Pathier nous disait, à savoir qu'elle correspond, et la providence de Dieu en général, correspond très exactement à ce que chacun est personnellement, à chacun selon son besoin, selon ce qu'il est individuellement, singulièrement. Dieu ne donne pas de loin collectivement, mais personnellement, en s'impliquant, c'était la suite du propos de Claire Pathier, à sa suite, nous sommes appelés au service des pauvres, à l'aumône, qui n'est que justice, et comme le Christ, en s'incarnant, à nous impliquer personnellement dans ce service des pauvres, à vivre avec, avec le coefficient d'abaissement que ça suppose. Et cette dimension d'implication, elle a été redite par le frère Augustin plus tard, elle est capitale dans le service des pauvres. Ça m'a rappelé le film « L'associé du diable », avec un Al Pacino survolté qui joue le diable, et le diable accuse Dieu en disant « Dieu, avec toutes les exigences qu'il a sur nous, c'est un propriétaire qui n'habite même pas l'immeuble. » Le frère Augustin disait que Dieu était le seul propriétaire de tout et de tous. Et en l'occurrence, c'est là où réside le mensonge du diable. C'est que Dieu est un propriétaire qui a choisi, par l'incarnation, d'habiter l'immeuble, de partager notre condition humaine et de ne pas nous sauver de loin et de haut, mais en venant partager notre condition humaine. C'est le principe de l'incarnation. Il ne s'agit pas de faire descendre seulement ses bienfaits, mais de venir partager la condition des pauvres en se faisant pauvre soi-même. Le Christ, vrai Dieu et vrai homme, s'est fait pauvre pour nous, et ça n'est que sous ce rapport qu'on peut qualifier la pauvreté d'attribut de Dieu, comme l'a fait Claire Pathier. Ça se dit surtout du Christ. Si le Christ s'est fait pauvre, alors il y a une certaine identité entre Dieu et le pauvre, celle qui est indiquée par Jésus en Matthieu 25, ce que vous avez fait au plus petit d'entre vos frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'était ce que Mère Teresa appelait l'évangile sur cinq doigts, « You did it to me ». C'est à moi que vous l'avez fait. Service du pauvre, visée de pauvreté volontaire, Claire Pathier nous introduisait au propos du frère Augustin. Il s'agit de vivre la première béatitude, heureux les pauvres, dans l'Esprit Saint, ils voient Dieu. C'est la seule béatitude qui est au présent avec celle des persécutés, c'est dire son importance. Et parce que la parole de Dieu trouve à s'incarner dans l'histoire, le frère Augustin l'a fait, nous a introduit à la manière dont les chrétiens ont compris cela à travers l'histoire. Tout le propos était de montrer comment la pauvreté cum Petro, la pauvreté avec Pierre, et la pauvreté cum Lazaro, la pauvreté avec Lazare, donc la pauvreté volontaire, celle de Pierre, et la pauvreté subie, celle de Lazare, devaient être unies dans un même propos évangélique, l'une nourrissant l'autre. Tous, nous sommes appelés à être des pauvres du Christ, parce que tous, nous manquons de l'essentiel qui est Dieu. Et pour cela, chacun, selon son état, est appelé à expérimenter la pauvreté, qui ne se résout pas de l'extérieur. Là aussi, c'est venu beaucoup. Et c'est toute l'intuition de la prédication mendiante de Dominique et de François que nous a exposé le frère Augustin. Prédication mendiante qui exige de chacun des renoncements successifs et le choix de moyens pauvres. Et frère Augustin est revenu sur cette intuition qui a été souvent redite à travers l'histoire, le fait que, et qui s'est vérifiée à travers l'histoire, que l'Église ne se réforme que par le choix assumé par certains, à certaines époques, de la pauvreté volontaire. De la pauvreté volontaire. On peut apprécier ou non les signes que le pape François a voulu donner en ce sens, mais c'est bien cela qu'il a en vue, avec comme objectif une Église servante et pauvre, selon le titre d'un livre fameux du père Congard, dominicain, qui était paru pendant le Concile Vatican II et qui avait beaucoup marqué le pape François à l'époque. Une Église servante et pauvre, qui se fait elle-même, qui s'applique à elle-même les conseils évangéliques pour vivre auprès des pauvres. Mais évidemment, ce discours sur l'Église comme institution n'a de sens que si chacun opère une conversion personnelle. Et le frère Augustin a rappelé la grande doctrine de saint Thomas sur la propriété, sur l'aumône et sur la mendicité dans le contexte de l'émergence contestée des ordres mendiants. Saint Thomas ne fait que prendre au sérieux l'Évangile, mais quand on le prend lui au sérieux, ça fait de lui un dominicain rouge. Il y a eu une grande période où on critiquait les dominicains rouges dans entre les années 50 et 70, c'était parfois d'ailleurs pas complètement injustifié comme critique, mais en l'occurrence, si on relit saint Thomas et si on relit l'Évangile sérieusement, sur la propriété, sur l'aumône, eh bien, on est obligé de voir que c'est assez révolutionnaire. Le principe de gérance, selon lequel la propriété n'est légitime que en tant qu'elle sert le bien commun, entre autres par la dispensation aux pauvres, est révolutionnaire. Le fait que nos biens en réalité ne nous appartiennent pas, mais nous sont donnés en gérance, en intendance, en administration, au service de nos frères, c'est assez révolutionnaire. Également le fait, souligné par saint Thomas, que l'aumône n'est le plus souvent que simple justice, et non pas d'emblée charité. Il faut plus que l'aumône pour arriver à la charité. En tout cas que l'aumône telle qu'on la réduit le plus souvent. Et même, le rappelait le frère Augustin, le vol est requalifié en non-vol en cas de nécessité absolue. Le propriétaire ainsi lésé étant même tenu en justice de concéder ce dont il est privé. On aimerait bien voir effectivement les réactions des propriétaires ainsi lésés disant mais oui, mais servez-vous monsieur, et d'ailleurs j'allais vous le donner. En tout cas, retenons de saint Thomas cette chose fondamentale que le droit de propriété, pour nécessaire qu'il soit du point de vue de la vie sociale, n'est jamais un droit absolu ni un droit sacré. Il est toujours, selon les mots de Jean-Paul II, qui ne fait que gloser à cet égard saint Thomas, grevé d'une hypothèque sociale. Il y a une hypothèque sociale qui pèse sur notre droit de propriété. Cette hypothèque sociale, c'est le besoin du plus pauvre. À commencer par ma famille, mais également le pauvre plus lointain dont je me fais proche. Il faut retenir aussi de l'intervention du frère Augustin, tout évidemment, c'est mon ancien père maître, donc je suis obligé d'une certaine révérence, mais aussi pour la qualité de l'intervention. Il faut retenir aussi la mise en garde de saint Thomas d'Aquin et de quelques dominicains du XXe siècle, du père Henri dont il parlait au père Régamet, contre une certaine esthétique de la pauvreté, un certain romantisme de la pauvreté. La pauvreté, saint Thomas le rappelle, n'est pas une vertu pour elle-même, même lorsqu'elle est choisie volontairement. Elle n'est qu'un moyen pour libérer la charité, pour libérer la disponibilité au prochain et pour libérer aussi cette forme de confiance dans la providence divine. Et c'est d'ailleurs, en fait, ce qui est vrai pour la pauvreté est vrai pour les trois conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance auxquels les religieux vouent ces vœux-là et renoncent aux biens auxquels ils correspondent seulement pour mieux aimer. Sinon, ça n'a pas de sens. Et rappelons au passage que chacun, religieux, prêtre, laïc, donc vous, est appelé à vivre selon ces trois conseils évangéliques, chacun selon son état, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Ça n'est pas une affaire de curé. D'ailleurs, ce n'est pas une affaire de curé, c'est une affaire de religieux, mais en l'occurrence, c'est aussi une affaire de laïc. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Je vais vite parce que vous êtes fatigué. Enfin, ceci dit, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour ne moins vous fatiguer. Voilà en tout cas de quoi méditer sur notre propre rapport à l'argent, évoqué par Patrice de Plainquette dans un des ateliers, qui a beaucoup insisté sur le caractère de système que l'argent a acquis aujourd'hui d'une manière complètement inédite. L'argent a toujours été présent, il a toujours été un motif de convoitise, un motif de division, mais jusque-là, il n'avait jamais été sacralisé et érigé en système comme c'est le cas aujourd'hui. Et sous ce rapport, la charité individuelle ne suffit pas, c'est le système, disait-il, qu'il faut mettre en cause. Et il le disait en s'appuyant sur le magistère de l'Église, et en particulier le magistère récent, disons de Paul VI au pape François, pour faire court. le caractère malsain du système est manifeste dans le fait qu'il va de crise en crise, de plus en plus rapproché, et se maintient uniquement en sauvant les structures financières au détriment des hommes. Et c'est la preuve, finalement, la plus manifeste du fait qu'il n'est pas sain, ce système. Et pourtant, il se renforce, et ça aussi, Patrice de Plainquette a beaucoup insisté, il se renforce à mesure qu'il devient de plus en plus une structure impersonnelle, où chacun s'exonère de ses responsabilités, convaincu qu'il est que son action ne peut rien changer à un système qui va tout seul, comme le disait Joseph de Maistre à propos de la Révolution française. Elle va tout seul, elle mène les hommes plus que les hommes ne la mènent. Et on a l'impression que ce qui était vrai de la Révolution française, selon Joseph de Maistre, l'est aussi du système capitaliste tel qu'il s'est dévoyé et que nous connaissons aujourd'hui. Il va tout seul et on a l'impression qu'on ne peut rien changer à titre personnel. Le problème, c'est que tout le monde est tellement convaincu qu'il ne peut rien changer que, de fait, il ne change pas parce que l'initiative personnelle est réduite à néant. Donc il y avait un appel qui a été beaucoup dit dans la table ronde aussi à la responsabilité personnelle, à la fois comme citoyen, comme consommateur. Toutes ces mirifiques promesses des GAFA et autres vers un monde meilleur assez terrifiant ne sont valables que, et ça pour le coup c'est leur théorie à eux, que s'il y a de la demande, et la demande c'est nous. Donc c'est à nous de savoir si nous voulons demander cela ou pas. Responsabilité personnelle. Sur cette question de système, je vais citer Ozanam parce que Joseph Touvenel en a beaucoup parlé et que le frère Maxime vous en a parlé, j'étais pas là mais je le sais, car mon job c'est d'être partout sans y être. Ozanam disait dans la parabole du Samaritain, le fait de secourir l'agonisant, c'est la charité. Encore qu'on ait pu dire que c'est de la simple justice, parce que c'est un devoir devant l'agonisant que de le secourir. Mais, disait-il, secourir l'agonisant, c'est la charité. Mais, disait-il, le fait de sécuriser les routes pour éviter qu'il y ait des agonisants, c'est la justice. Et, sous ce rapport, le chrétien doit lutter à la fois pour la charité, évidemment, de manière immédiate, en aval, et pour la justice en amont, pour éviter que ne se produisent les situations incriminé. Il y a vraiment une articulation du personnel et du communautaire, du micro et du macro, à opérer, chacun pour nous-mêmes et l'Église et la nation collectivement. La table ronde, et je vais terminer là-dessus, sur la France périphérique et les Gilets jaunes a été passionnante également. La crise des Gilets jaunes a fait ressurgir la question sociale, alors même que le pouvoir politique, conscient de son incapacité à agir sur l'économie, avait privilégié la question sociétale. Puisque nous ne sommes pas capables de régler la question économique, tablons tout sur le sociétal. Ben oui, sauf que la question sociale a ressurgi. Chassé le social, il revient au galop. La crise des Gilets jaunes, on l'a beaucoup dit, a donné une visibilité à ceux qui jusque-là étaient invisibles, tant du point de vue des politiques de minima sociaux que du point de vue de la production culturelle ou de l'existence médiatique. Et cette crise des Gilets jaunes a validé, disait-on, les thèses de Christophe Guillouy sur le fait que la nouvelle fracture en France, c'est une fracture socio-géographique. La sociologie des Gilets jaunes dessinant deux France, non pas antagonistes, mais juxtaposées, qui ne se connaissent pas, qui ne se comprennent pas, parce qu'elles ont un rapport différencié à la mondialisation et au mode de vie qui l'induit. Certains y sont parfaitement adaptés et en bénéficient, d'autres non. C'est ce que l'un des intervenants, je ne sais plus lequel, a appelé le darwinisme social, qui est impliqué par le modèle économique contemporain. Certains s'adaptent, d'autres non, et une bonne partie de nos politiques, finalement, nous sommes de nous adapter ou de mourir. De mort lente, on est doux en France. Le modèle économique contemporain qui a été caractérisé de manière très intéressante par le fait assez nouveau d'une hyper-concentration des moyens économiques, des services et de la mobilité dans les métropoles et la proximité des métropoles par opposition aux autres. Deux petites choses à noter, et je termine là. 1, les gilets jaunes réclament une visibilité, une reconnaissance. Sous ce rapport, en fait, ils sont tout à fait dans le train de l'histoire politique récente, qui est celui de l'exigence par tous et par chacun de reconnaissance, confère Pierre Manant, qui en avait beaucoup parlé il y a maintenant une quinzaine d'années. Chacun réclame une reconnaissance. Ce que les minorités sexuelles, ethniques, etc. réclament et obtiennent, les gilets jaunes ne l'obtiennent pas, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas prétendre au statut de victime. Ils ne sont pas assez pauvres, pas assez colonisés ou ex-colonisés, pas assez bien-pensants, etc. Ils ne remplissent pas les critères du statut victimaire qui permet la reconnaissance des droits. Or, la reconnaissance des droits et la visibilité, c'est au fond le grand enjeu, même alimenté par les médias. Il s'agit d'exister pour les autres et à ses propres yeux. Deuxième petit point, cette question de la visibilité, elle fait transition avec l'une des conférences de demain sur la théologie de la libération. Le théologien dominicain Gustavo Gutiérrez, qui est le père de la théologie de la libération, un des pères, méditait lui aussi sur la parabole du bon samaritain, et il remarquait quelque chose d'intéressant. Dans la parabole du bon samaritain, tous les protagonistes sont désignés soit par leur fonction, soit par leur origine, soit par quelque autre élément. Ils sont tous quelqu'un, ils sont tous reconnus. Il n'y en a qu'un qui n'est pas désigné par son origine, par sa fonction, qui n'est pas reconnu, c'est le pauvre, c'est l'agonisant, qui lui est désigné simplement comme un homme. Et Gutiérrez parle à ce sujet du pauvre comme de l'insignifiant, celui qui n'a pas de signification au regard des autres. Et c'est aussi quelque chose qui permet d'élargir la conception qu'on peut avoir du pauvre, en cohérence avec ce qu'on a dit du problème de visibilité des gilets jaunes. La crise des gilets jaunes rejoint tout à fait cette intuition-là de Gutiérrez et de la théologie de la libération. Le pauvre comme l'insignifiant. Et enfin, et je termine vraiment cette fois-ci, j'ai été très frappé par les anecdotes de Mgr Ginoux, avec un petit côté Don Camillo qui n'était pas déplaisant, d'où la musique qu'on nous a passée là à l'instant. Tous ces gens-là, sur les ronds-points, peut-être pas tous, mais une grande partie, sont des chrétiens ou des anciens chrétiens. Je ne sais pas si l'Église les a abandonnés, mais en tout cas, elle n'a pas su les rejoindre. Et on revient aux exposés de ce matin, la boucle est bouclée. Il faut se faire proche. Dieu l'a fait par l'incarnation, il aurait pu le faire autrement, il avait les moyens. Nous, on n'a pas d'autre moyen que de se faire proche physiquement, moralement. Et on revient à cette question, qui est mon prochain ? Qui est mon prochain ? Et à cette question-là, il y a 1000 réponses, c'est à chacun d'en décider, mais le moins qu'on puisse dire, c'est justement qu'il y a l'embarras du choix, il y a l'embarras des prochains, il suffit de le décider. Ça exige de se former, d'adopter une attitude de citoyen et de consommateur responsable, chrétien, de lire les enseignements du magistère, et d'agir en conséquence. Et j'ajouterai quelque chose au sujet de Joseph Touvenel, dont l'intervention m'a marqué. Il est arrivé, en ne cachant jamais sa foi chrétienne, revendiquée, au risque des vexations, à un niveau de responsabilité très important dans un milieu qui ne l'accepte pas forcément. La seule chose, outre la grâce qui a permis cela, c'est peut-être qu'il travaillait plus et mieux que les autres ses dossiers et qu'il conduisait humainement les discussions. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, mais je vous le redis. Je pense qu'aujourd'hui, et ce sera ma conclusion, aux catholiques que vous êtes, on ne pardonne de l'être qu'à un certain niveau d'excellence professionnelle et humaine. C'est une exigence terrible, mais c'est une exigence pour chacun d'entre nous. Nous n'avons le droit d'être catholiques que si nous travaillons plus, mieux, et en plus que nous sommes capables de le faire avec humilité, en conduisant humainement les affaires qui nous sont confiées. Grave responsabilité.